Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission qu'on adore faire, que la rédaction adore faire tous les ans, voilà, c'est notre émission Palmarès. Et on va vous dire donc, quel est le livre, quel est le film, sorti au cinéma ou sur une plateforme, quel est quel est le disque que nous avons préféré, puis on rajoutera peut-être quelques coups de cœur. Juste pour vous dire, les disques, on va passer des extraits de chaque disque dans l'émission. Il y aura la playlist sur le blog culture-prohibé.blogspot.com. Comme ça, vous pourrez consulter la playlist et vous faire une bien meilleure idée de nos choix et de nos goûts musicaux. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que vous allez découvrir en allant dans l'émission quels sont donc nos livres, films, disques et coups de cœur de 2025. Mais par contre, je vais tout de suite entrer en contact avec mon équipe. Tout d'abord, Johan Chanoir, dit le chat errant, historien, critique de cinéma et enseignant à Sciences Po. Miaou à toi, Johan.
Miaou à toute l'équipe pour ce palmarès 2025.
Également présent à mes côtés, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, archéologue animal, enquête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech, disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Et enfin, impossible de faire une émission palmarès sans lui, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien, bonjour Johan, et bien évidemment bonjour à toutes.
Cher Thomas, puisque tu as la parole, je te la laisse pour que tu nous parles de ton livre coup de cœur, de ton livre préféré de 2025.
Pour cette année 2025, j'ai choisi de mettre en évidence un écrivain français qui a signé un premier roman fantastique. Il s'agit de Florian Kitard et son livre est intitulé « Le Geôlier » et il est édité par Rouge Profond dans la collection « Les mots noirs ». Pourtant, « Les geôliers » n'est pas si sombre que pourrait le laisser entendre le nom de cette collection. Le roman suit un personnage solitaire, Saul Geôlier, gardien d'une mystérieuse prison située au milieu de nulle part. Se sentant étranger à ce monde dans lequel il évolue, le maton, malgré son apparence de colosse, se révèle trop humain, trop gentil, et va se retrouver au centre d'une étrange histoire de profanation de corps digne d'un céréal. Le gardien se retrouve vite à devoir affronter les habitants d'une petite ville de pêcheurs, brumeuse et grise, tout droit sortie d'une nouvelle de Lovecraft, va découvrir de macabres secrets et défier un antagoniste digne d'un James Bond. Florian Kitard s'est installé une atmosphère avec des lieux lugubres, des personnages mystérieux, sans parler de ces détails improbables et de ces idées tordues qui ne sont pas sans rappeler l'ambiance poisseuse des premiers romans de science-fiction de Serge Brussolo. Mais l'auteur s'est brouillé les pistes, se démarquait de ses influences en mélangeant les genres. Pour autant, Florian Kitard signe une œuvre qui trouve le ton juste entre une ambiance malsaine et un certain humanisme. Son récit ne va jamais là où on pourrait l'attendre, regorge d'idées singulières sans jamais tomber dans la facilité ou le glauque pour faire glauque. Il mêle avec habileté science-fiction et fantastique, glisse de l'un à l'autre avec fluidité, crée un monde hors du temps pour un récit haletant où l'horreur ne rime pas avec cynisme, pour finalement emmener son lecteur dans un même souffle aventureux. Oui, Le Geôlier est une excellente surprise qui regorge de suspense et d'action, Florian Kitard signant une œuvre dont l'originalité et la liberté donnent un souffle nouveau à la littérature fantastique française.
Et ça s'appelle Le Geôlier, c'est disponible chez Rouge Profond et... Je sais que, Johan, tu es venu toi aussi avec un livre édité par Rouge Profond.
Tout à fait. Je viens avec un livre de Thomas Révoy, bon, qui est un ami, mais journaliste, photographe, réalisateur, et qui nous a offert cette année donc, un livre d'entretien avec le réalisateur, producteur, scénariste Walter Hill. Et le livre s'appelle d'ailleurs « La dimension Walter Hill ». Alors, c'est un ouvrage fascinant, hein, n'ayons pas peur des mots, puisque en fait, on pénètre à l'intérieur non seulement d'une œuvre, bon, que l'on connaissait bien sûr par ailleurs avec les films, mais surtout à la manière dont cette œuvre a été créée et le ressenti qu'a le créateur sur ses créatures. Donc c'est vraiment un ouvrage très intéressant, illustré par de nombreuses photographies prises par Thomas lui-même, et c'est un projet, on va dire, de très longue haleine, hein. Je l'ai suivi, mais ça s'écoule sur plusieurs années. Alors il faut vraiment lire ce livre si vous aimez Walter Hill, il faut lire ce livre si vous ne connaissez pas Walter Hill, il y a de très 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 nombreuses anecdotes, par exemple vous apprendrez que c'est lui hein, qui impose... un personnage féminin dans Alien, le 8e passager en 79, hein, un film de Ridley Scott, comment il tourne, son regard sur les Warriors, hein, qui vient de sortir dans des éditions collector, m'a dit Jérôme. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fascinant, il revient aussi, et pour conclure, et c'est bien la première fois que je crois que je vois ça dans un livre sur un réalisateur. Il ne tente pas d'imposer en fait sa vision au public, c'est-à-dire qu'il a dit souvent, d'ailleurs à propos du film Son Retour, qui est un chef-d'œuvre absolu en 81, ce film a été vu par beaucoup comme une métaphore sur la guerre du Vietnam, il lui dit que ce n'est pas du tout son intention, mais qu'il ne veut pas empêcher le public hein, de s'approprier ses propres créations pour les plier en fait à leurs préoccupations. Et je trouve ça, ce passage est vraiment très très intéressant et rien que ce passage hein, mérite l'achat de ce livre qui est un très beau livre de cinéma. Et on remercie et Thomas et Rouge Profond qui l'a porté, à nous avoir offert ce petit cadeau en 2025.
Mon cher Damien, tu es venu donc avec Wonder Woman hors la loi de Tom King, Daniel Sampere et Bruno Redondo, paru chez Urban Comics.
Comme tous les ans, je vais un peu tricher parce que dans l'émission je triche un peu tous les ans. Comme l'année dernière, du coup, tous les deux, Jérôme, on va parler des comics. La particularité, c'est que moi, j'ai choisi Wonder Woman hors la loi J'en avais parlé en fait à la sortie du tome 1, et cette année il y a le tome 3 qui est sorti, qui termine l'arc. Pour petit rappel, l'histoire de Wonder Woman hors la loi, c'est qu'il y a une Amazone qui va se faire agresser. Au lieu de subir l'agression, elle va tuer ses agresseurs. Ça va lancer aux États-Unis le Amazon Safety Act, qui va bannir du territoire américain toutes les Amazones présentes. Soit elles partent d'elles-mêmes, soit elles sont exécutées parce qu'ils ne veulent pas garder des terroristes sur leur territoire. Tout ça, c'est une sous-intrigue pour dire qu'en fait, depuis que les États-Unis ont été fondés, ils ont un roi, un souverain qui les gouverne en secret et qui fait tout pour rester au pouvoir, caché et accumulant les fortunes. Le problème, c'est que face à lui, il va avoir Wonder Woman qui va tout faire pour la briser, y compris y mettre les moyens les plus importants des USA, mais que vu que c'est Wonder Woman et qu'elle va être entourée d'une certaine sororité, elle va réussir à s'en sortir. En tout cas, elle va quand même y laisser des plumes sur le passage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de manière générale, j'apprécie pas trop Wonder Woman en solo. Pour moi, elle était toujours un peu... Je la trouvais pas très perspicace. Et l'œuvre de Tom King, c'est vraiment l'œuvre qui m'a dit, en fait, qu'il y avait de quoi se plonger dedans et que je pouvais un peu y trouver mon compte. Ce qui est très intéressant, c'est que je suis allé voir la réaction des fans de Wonder Woman habituellement. Et en fait, ils détestent ce tome parce qu'ils le trouvent un peu trop d'actualité. On retrouve des thèmes, notamment avec la police Ice, même si c'est peut-être pas volontaire. Mais ils trouvent qu'en fait, c'est juste un comics qui met en avant le côté baston de Wonder Woman. Alors je suis pas d'accord, je trouve que son côté compassion est très très mis en avant, ça met en avant des personnages très importants dans son lore, notamment les Wonder Girls, que ce soit Donna Troy, Cassie Sandmark ou Yara Fleur, mais aussi d'autres personnages qu'on retrouve très souvent avec Wonder Woman, dont Detective Chip, qui est un chimpanzé et qui est le plus grand détective du monde dans l'univers de DC, meilleur que Batman, et qui est très drôle parce qu'ici il intervient un peu comme un personnage à la Columbo, où il va enquêter sur un meurtre qui a eu lieu et qui va revenir sans cesse avec vraiment les mêmes gimmicks que de Columbo, ce qui le rend assez attachant. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que cette année, en fait, j'ai beaucoup lu des rééditions, mais des rééditions en intégrale, et je me suis rendu compte qu'en fait, par rapport à des comics qui sortent de manière assez récurrente et un peu de manière feuilleton, les intégrales, ça permet d'avoir toute l'histoire en entier, et c'est les choses qui m'ont le plus marqué. Et je me suis pas arrêté à un seul tome de Wonder Woman parce que malheureusement il est sorti en 2023, sinon je vous en aurais parlé. Il y a aussi un magnifique tome qui s'appelle Wonder Woman Historia de Kelly Sue DeConnick et de Philippe Riminez, qui lui a la particularité en fait de nous donner au niveau du dessin un truc assez spécial. Si vous feuilletez les pages, vous verrez qu'il y a un côté assez Sandman à l'intérieur et qui arrive à faire un truc génial, c'est que le phrasé des personnages, ils ont tout un phrasé qui est lié un peu à la tragédie grecque. La raison pour laquelle ils ont ça, c'est parce que l'histoire, en fait, raconte l'origine des Amazones. Et ça le fait à la perfection, ça montre la cruauté des hommes. Il y a des tournures de phrases qui sont incroyables. Par exemple, on apprend que les premières Amazones sont sorties, ont été liées à la déesse Déméter, et le texte appuie ça en disant pourquoi c'est la déesse de l'agriculture qui donne naissance aux premières Amazones. Tout simplement parce que c'est la déesse qui s'assure que les hommes récoltent ce qu'ils ont semé. Tout ça nous emmène à quelque chose qui va rythmer les années à venir, et je terminerai là-dessus, qui est qu'actuellement, chez DC, l'univers Absolute a été lancé. Univers écrit par Scott Snyder, dont je déteste la plume, et dont j'étais très médisant au début. Sauf que son univers a commencé et que plusieurs auteurs se sont posés sur les comics. Le Wonder Woman Absolute est sorti cette année, et il est écrit par Kelly Thompson et Aidan Shemann. Et dedans, en fait, on a une réécriture de l'histoire de Wonder Woman, qui cette fois ne naît pas sur l'île des Amazones, mais elle se retrouve en fait envoyée aux enfers par les dieux. Les Amazones ont toutes été massacrées sauf elle, et c'est Circé en enfer qui va devoir l'éduquer et l'élever, ce qui nous donne une plume assez intéressante. Je trouve que les couleurs tirent un peu sur le pastel, le dessin est assez beau, il y a de la violence, il y a de la cruauté, parce que c'est un univers où Darkseid est infusé, où le mal est censé gagner, et même si le mal est censé gagner, il existe quand même Wonder Woman, qui est toujours la même d'une certaine façon, une force de compassion unique en son genre. Donc si vous voulez suivre l'œuvre qui m'a le plus cette année et qui est sortie cette année, je vous conseille à nouveau tout simplement Wonder Woman Hors la Loi de Tom King, dessiné par Daniel Sampere et Bruno Rondondo, disponible chez Urban Comics.
Moi, je vais rester dans l'univers du comics. On est un peu plus sur l'indé. On n'est pas dans des séries. C'est une série, mais on n'est pas dans des séries de collants, moules, cache-sexe. Voilà, on est dans autre chose. Parce que je trouve que ces dernières années, moi, je suis très preneur. Bon, là, je grâce à toi, Damien, je lis les Injustices, tout ça, mais je suis quand même assez déçu de la production de comics. Je trouve qu'elle s'est standardisée, elle est moins intéressante ces dernières années. Et je suis bien content quand je vois à chaque fois sortir un nouveau tome chez Delcourt du travail de Ed Brubaker. Là, en l'occurrence, c'est un hors-série de la série Criminal et qui s'appelle Les Acharnés. Alors, Ed Brubaker, si vous écoutez cette émission depuis maintenant de nombreuses saisons, vous savez que c'est un de mes scénaristes de comics préférés. Donc là, il est né en 66, lui, hein, et ça commence à être un scénariste qui a de la bouteille quand même. Hein. Ça fait un petit moment qu'il est là. C'est un maître du polar. Pour moi, il n'y a pas mieux que lui pour écrire des polars en BD. C'est absolument extraordinaire. Et donc, il travaille en parallèle de comics très lucratifs. Hein. On va le retrouver sur Captain America. C'est vachement bien, d'ailleurs, ce qu'il fait sur Captain America. Sur Daredevil aussi, c'est assez énorme. Il va travailler pour la télé. Il va faire c'est lui qui va écrire les premiers Westworld, la série Westworld, série HBO, d'après l'univers de Michael Crichton. Et puis, depuis plusieurs décennies, il signe maintenant différentes séries de polars. Des choses plus personnelles, qui ont une vraie fanbase, hein, puisque j'en fais partie, puis que c'est publié partout dans le monde, hein, à savoir Incognito, Fatal, Velvet, et son chef-d'œuvre, Fondu au Noir, BD de 2015, absolument extraordinaire, qui est un polar dans lequel il y a la particularité d'avoir parmi les personnages, pendant la chasse aux sorcières à Hollywood, Dassiel Hammett. Donc c'est vraiment un polar assez extraordinaire. Et là, il a son ami habituel avec lui au dessin, Sean Phillips. Sean Phillips, qui est un ancien de Judge Dredd Magazine, hein, le parcours assez dément. Donc acolyte habituel de Brubaker, auquel il prête son trait singulier, teinté d'une certaine forme de vérisme. Il a un style assez particulier. Et c'est son frère, là, Jacob Phillips. Alors, il y a eu plusieurs coloristes, hein, sur des BD de Brubaker et Phillips, mais là, c'est son frère Jacob Phillips, qui assure d'ailleurs superbement les couleurs. C'est déjà lui qui avait fait les couleurs du très beau La Maison des Impies, qui était sorti en 2024. Dans Les Acharnés, c'est l'histoire de Jacob, qui est scénariste. Il est scénariste de comics underground. Et il voit un de ses personnages acheté par la télé. Et donc, il va à Hollywood parce que, bon, bah voilà, sa série lui ouvre les portes d'Hollywood. Et ce que va nous décrire Brubaker, c'est Hollywood et sa faune singulière. Il va croiser, entre autres, Angie, hein, Angie dont le destin tragique va l'émouvoir. Et puis, comme dans tout bon film noir, les emmerdes vont s'enchaîner. Et puis, Tracy Lawless, vieille connaissance des amateurs d'Ed Brubaker, va venir au secours de notre bon vieux Jacob. Il a la tronche de plus en plus ravagée, Tracy Lawless. Il a des cicatrices des pieds à la tête. Ce bon vieux Jacob va bien avoir besoin de Tracy parce qu'il est trop honnête, Jacob, pour vivre dans le monde d'Hollywood. Et bon, comble de la mise en abîme, hein, Criminal étant actuellement en cours d'adaptation avec... À chaque fois, il y a des nouvelles de casting assez démentes qui arrivent chaque semaine sur les sites internet. Et en fait, on peut s'empêcher de se dire que c'est le regard de Ed Brubaker sur Hollywood et le monde des séries télé, hein, qui n'épargne pas du tout dans cette BD qui nous est donnée à voir. Alors, la BD dont je vous parle, là, Les Acharnés, donc ce hors-série de la série Criminal parue chez Delcourt, a été publiée d'un seul bloc aux USA. C'est pas quelque chose que faisait forcément Brubaker. Avant, Brubaker faisait des épisodes séquencés, voilà, avec des fascicules qui paraissaient régulièrement, comme le font tous les auteurs de comics. Du coup, là, on est face à un graphic novel avec des chapitres plus ou moins longs. Il n'y a aucune règle qui régit tout cela dans le déroulé du récit. Et en plus d'être une réjouissante satire donc du monde de la production audiovisuelle, eh bien, une fois de plus, Brubaker trace le portrait de personnages magnifiques, cabossés, au parcours chaotique, auxquels quand même il est difficile de résister. Quoi. On les aime, quoi. On les aime, ces personnages, ces gueules cassées, on va dire, par la vie que développe Brubaker dans ses BD. Alors, c'est ambitieux, parce qu'il y a une narration chorale. Les acharnés, donc au-delà de sa férocité, hein, c'est aussi un formidable autoportrait pour Brubaker, hein, parce que lui aussi, hein, il a été un auteur de comics qui avait du mal à joindre les deux bouts avant qu'on l'adapte, hein, tout simplement. Et puis, il y a par ailleurs, donc, je vous l'ai dit, hein, le retour du mythique Tracy Lawless, véritable anti-héros de l'univers criminel, et parfaitement bien intégré au récit. Et puis, bon, bah, le père Tracy, en matière de parcours cabossé, on peut dire qu'il se pose là. Hein. Voilà, ça défie même l'entendement. Alors, c'est certainement pas le meilleur Brubaker. Fondu au noir reste pour moi totalement indépassable. Mais depuis fort longtemps, c'est en tout cas son meilleur. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Pour moi, c'est son meilleur depuis Night Fever, qui était sorti il y a quelques années également chez Delcourt. Et puis si donc vous en avez marre d'un MCU à bout de souffle auquel plus personne ne comprend rien, lisez tout Brubaker chez Delcourt, vous ne serez pas déçus. Vous écoutez Culture Prohibée. Après un bon livre, un bon disque, ça s'impose, voilà. Et je sais que Thomas, toi, tu es venu avec un musicien quand même de la bouteille, mais qu'on connaît assez peu, en fin de compte, dans nos contrées. C'est Jupiter et Oquess, enfin des musiciens, et cet album s'appelle Ekoya.
Oui, est-ce que vous savez que les bons comptes font les bons amis ?
Oui.
Ça tombe bien parce que c'est justement l'un des titres du quatrième album de Jupiter et Oquess, Ekoya, comme tu viens de le préciser, Jérôme. Et oui, pour la deuxième année consécutive, je vous emmène en République démocratique du Congo pour jeter une oreille du côté de son patrimoine musical. Jupiter, c'est Jean-Pierre Bokondji, chanteur et percussionniste, inventeur du Bofenia rock, genre qui va à contre-courant des modes musicales de la bien-pensance générale. notamment à tort dans le cou aux idées réductrices qui font de la RDC le pays des guerres fratricides et des dictateurs. D'ailleurs, on l'appelle le général rebelle parce qu'il est allé à l'encontre de traditions qui ne correspondaient pas à sa philosophie. Okwes veut dire la bouffe spirituelle pour Jupiter, ce qui est logique pour la part du petit-fils d'une guérisseuse célèbre de l'ethnie Ekonga. Dans les années 80, rentrant en RDC d'une enfance berlinoise, au lieu de se contenter de la seule rumba congolaise, il décide de recueillir la sonorité venant des quelques 450 ethnies coexistant dans le pays. Aujourd'hui, Jupiter et Okwes occupent une place majeure parmi la musique africaine et sur un plan international avec son genre musical dont la mixité fait vibrer les corps et les esprits. Dans cette continuité, pour Ekoya, Jupiter convoque les rythmes de différents pays comme le Mexique où certains titres ont été enregistrés pour évoquer les injustices sociales, la déforestation et le pillage des richesses. Pour autant, l'album ne donne pas dans la mélodie tristoune et misérabiliste pour altermondialiste en balle de combat. Et Ekoya s'avère un album vivant et percussif avec des morceaux furieux et détonnants où la rumba congolaise rencontre le rock et le funk. La voix grave et chaude de Jupiter est accompagnée sur certains morceaux par des voix féminines, entre autres celle de l'artiste brésilienne Flavia Coelho. Ce cocktail détonnant n'est cependant pas dénué de moments d'accalmie, comme « Tout passera », qui clôt sur un appel à l'apaisement, un album revigorant et loin d'être mélancolique.
Mon cher Johan, toi, tu es venu avec un artiste, que, là c'est pareil, moi je découvre, hein, je découvre Jupiter et Okwes grâce à Thomas, et avec toi, je découvre Tyler Childers, donc, qui nous sort Snipe Hunter, là, qui est disponible donc, chez RCA. Je rappelle que le disque Ekoya est disponible chez Autre Distribution, hein, c'est important pour que nos auditeurs puissent en faire l'acquisition. Et toi donc, Johan, je reviens vers toi. Donc, Tyler Childers, disponible chez RCA, Snipe Hunter. Déjà, le titre, c'est tout un programme.
Exactement. Alors, il n'est peut-être pas très connu en France, malheureusement, parce que bon, et même en Europe, parce que bon, l'Europe a une certaine réticence envers la musique country. Il faut savoir que Tyler Childers est un des représentants de cette nouvelle génération de country, avec Orville Peck, par exemple, et que c'est vraiment un des grands noms qui s'impose. C'est son septième album et dernier album. Et il vient du Kentucky, il vient d'un territoire fortement marqué par l'industrie charbonnière et les ravages sociaux, sociétaux et écologiques. Et il mâche pas ses mots. C'est vraiment un artiste à texte qui mélange un peu d'ailleurs tous les styles. Hein. Il n'y a pas que de la country, il y a de la folk à la manière un peu de Bob Dylan, il y a du bluegrass, etc. Et puis il y a de la country aussi, bien évidemment. Et c'est vraiment une voix singulière qu'il faut entendre et qu'il faut découvrir. Parce que les États-Unis ne se résument pas qu'aux séries télévisées, également qu'aux films hollywoodiens. Il y a également la musique et la country, hein, c'est l'expression de ce que sont les États-Unis, pardon, et ils le chantent de manière vraiment très très bien. Alors, ceux qui ne connaissent pas et qui achèteraient l'album, hein, il faut savoir que sur un seul album, hein, il n'y a pas d'homogénéité musicale ni thématique, hein, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir une variété de chansons, de styles absolument incroyables. Il s'attaque à tout, il n'a aucune censure, et des journalistes, hein, et même des historiens aujourd'hui, parce que ça devient un vrai phénomène de société, il retrouve un peu cette tradition du protest-song cher à Bob Dylan, que Bob Dylan avait repris d'ailleurs à d'autres artiste avant lui, mais c'est vraiment une voix qui compte, et c'est la voix en fait de ces États-Unis qu'on ne connaît pas, le Kentucky, les pays miniers, etc. Et donc ça vaut la peine d'être écouté. Je pense que c'est un des plus grands chanteurs de country de demain. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et puis ça permettra aussi, parce que ce genre le mérite, hein, d'être plus connu en France, parce que la musique country, c'est pas que des types avec des chapeaux et des bottes, c'est tout autre chose. Alors il y a de la poésie, il y a de la colère, il y a du rythme. Enfin bref, si vous aimez la musique, il faut acheter cet album.
Je rappelle que c'est signé Tyler Childers, que ça s'appelle Snipe Hunter, que c'est disponible chez RCA, que je l'ai découvert moi grâce à toi, et que ça en voit du lourd, hein, quand même. Hein. C'est très rock, c'est très blues rock aussi. Hein, voilà. Donc Moi, c'est une vraie découverte pour moi, donc je te remercie, Johan, de me faire découvrir cet artiste. Pareil, Damien, ça va être aussi une découverte, puisque moi, je commence à être vieux. Hein, j'achète surtout des rééditions, vous verrez dans le disque que j'ai choisi, d'ailleurs. Tu veux nous parler d'un disque sorti chez Warner, qui s'appelle Detox, signé One Ok Rock.
Alors, cette année, il s'est passé quelque chose de merveilleux pour moi. C'est que je suis très fan du groupe Linkin Park. J'en ai déjà parlé dans un des palmarès. Et ils se sont reformés l'année dernière. Je pense que j'en ai parlé dans la précédente édition palmarès. Et cette année, j'ai eu la chance de vivre un rêve de gosse. Je suis allé les voir en concert. Moment incroyable, public en feu. Petite spécialité française. Hein. On fait pas les bacs avec les chanteurs. On chante les chansons avec eux. Donc, c'était incroyable. Et il y a un groupe qui a fait la première partie que j'ai découvert. Et depuis, je m'accroche à eux. Ce groupe, comme l'a dit Jérôme, il s'appelle One Ok Rock. Il existe depuis 2005, ce qui m'a surpris parce que je trouvais le groupe très jeune. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont quatre membres qui sont japonais, qui chantent en japonais et en anglais, et en fait, qui sont un peu dans le même style de Linkin Park. Ils se connaissent en fait depuis extrêmement longtemps. Leur nom vient du fait d'un jeu de mots que quand ils louaient le studio pour enregistrer, ils pouvaient uniquement le faire à One O'Clock, ce qui a donné avec le temps le nom One Ok Rock. Au départ, ils ont beaucoup travaillé avec, et encore aujourd'hui, Follett Barhamen, qui appartient justement à Warner Group Music et qui a déjà signé des groupes qui sont un peu dans le même style de pop-rock, rock alternatif, dont Fall Out Boy et 21 Pilots, dont j'ai failli parler du dernier album, mais j'avais pas envie de vous raconter tout leur lore. Donc au final, on a un style très proche de Linkin Park, où on va avoir un mélange de rock, de rap, de screamer. D'ailleurs, ça me rappelle que pendant le concert, on a le chanteur Takahiro Morishi qui est monté sur scène pour chanter What's Them Closer avec Linkin Park, et sa voix ressemble beaucoup à certains moments à celle de Chester Bennington. Du coup, j'étais vraiment, vraiment aux anges. En plus, je me suis rendu compte cette année en découvrant l'album qu'un des morceaux qui est dans cet album, qui s'appelle Curiosité, que j'aime beaucoup, vu que c'est un feat avec Palette Dusk et Chico Cartillo, où il y a une sorte d'échange dans le chant qui crée, je sais pas, une sorte de symbiose, ou en tout cas un dialogue que j'apprécie beaucoup, était lié à un autre truc que j'adore, parce que j'adore le catch, et un catcheur japonais qui s'appelle Kazushika Okada aka Rainmaker, qui est chez l'AEW, qui utilisait justement leur musique. Donc leur musique, je l'entendais déjà depuis un moment avant de les découvrir. Il y a beaucoup de morceaux que j'apprécie dans l'album. Le tout premier, c'est celui que j'écoute le plus en ce moment, qui s'appelle Nasty, qui est un morceau qui fait assez sale gosse, assez brut, que j'écoute un peu en boucle. Il y a des morceaux plus doux, plus mélancoliques ou torturés comme Tropical Therapy ou Delusions Hall. Mais il y a aussi des morceaux vraiment très très doux, même s'ils sont tristes, comme Tiny Pieces que j'aime beaucoup. Vous l'avez compris, je viens de les découvrir. Pour l'instant, je me suis fait leur dernier album, mais je suis en train, au fur et à mesure, de remonter dans toute leur muséographie, et c'est un véritable plaisir. C'est vraiment une des découvertes musicales les plus formidables de cette année à mes yeux, et je suis terriblement surpris que, vu qu'ils sont liés à Linkin Park, vu qu'ils sont liés à l'AEW, vu qu'ils sont liés à deux choses que j'aime énormément, je suis vraiment surpris de ne pas les avoir découvert plus tôt. Donc je vous conseille de mettre la main sur Detox de One Ok Rock, disponible chez Warner Music.
Je vais vous parler de The Undisputed Truth. C'est une réédition, en fait, disponible chez Ace Records. C'est un petit label, hein, du premier album éponyme du groupe mythique, né dans l'esprit de son leader, un pilier de la Motown, qui s'appelait Norman Whitfield. Jamais repressé quand même cet album depuis 1972. On pouvait juste écouter des extraits sur YouTube, par exemple. Donc c'est dire si c'est un événement, hein, cette ressortie en vinyle, plus très beau vinyle, c'est du 180 grammes, tout ça, c'est du beau vinyle, c'est pas du tout les vinyles là, tout fins là, qui se gondolent, parce qu'il y a certaines rééditions quand même où je trouve que les labels se foulent pas des masses. Et là, on n'est pas du tout dans ça, là on va replonger en fait dans une ambiance, dans une époque, parce que c'est vraiment un disque qui correspond à une époque, hein. C'est un disque de 72, et donc on est dans quelque chose qui est aux frontières de funkadélique, du meilleur de la disco aussi, de Sly and the Family Stone, et du rock psychédélique, hein, aussi, hein, parce qu'il y a aussi des grosses guitares, quoi. Et le disque, c'est vraiment une succession de chefs-d'œuvre intemporels où la bande de Norman Whitfield ne respecte pas les sacro-saintes règles commercial, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, accouchant parfois de morceaux très expérimentaux, loin des standards de durée exigés par la sacro-sainte radio. Whitfield, donc mythique producteur des Temptations, entre autres, c'est lui qui a produit, mixé ce fameux morceau Papa Was a Rolling Stone dans sa version d'un quart d'heure, un morceau complètement dément, et réuni avec ce groupe Joe Harris, qui est un ex des Ohio Players, Billy Ray Calvin et Brenda Joyce Evans, qui étaient des choristes, entre autres, de Diana Ross et aussi d'Edwin Starr. Beaucoup Edwin Starr, on en a déjà parlé aussi dans cette émission. Alors, à côté de morceaux plus longs, hein, par exemple, de morceaux de plus de 10 minutes, des morceaux très cosmiques, on va dire, comme Bowl of Confusion, cet album propose aussi un titre, un tube, que dis-je, un tube planétaire, le légendaire Smiling Faces Sometimes. C'est d'ailleurs le morceau que j'ai choisi de diffuser dans cette émission. Quand vous allez l'entendre, vous allez vous dire, mais oui, en fait, on connaît The Undisputed Truth. Voilà, il faut savoir qu'ils ont produit quelques albums, il y a 3-4 albums de The Undisputed Truth, et que bah, je vous encourage, hein, si vous arrivez à les trouver, à vous les procurer, à chaque fois c'est assez merveilleux. Et donc là, bah, c'est The Undisputed Truth, c'est sorti chez Ace Records. Écoutez, Culture Prohibée, spécial palmarès 2025. On va vous parler là de nos coups de cœur parmi les films sortis au cinéma cette année. Alors il y a un film qu'on a mis de côté exprès. Je sais que Thomas, c'est aussi un de ses films de l'année. Mais on en a parlé dans l'émission. C'est le film de Peter Dorunzis, Rapace, qui nous a vraiment particulièrement impressionnés en termes de mise en scène. Et voilà, on vous en a déjà longuement parlé dans une précédente émission. Et donc, on a fait des choix. On espère qu'on va susciter votre curiosité. Je pense que certains films, vous les avez vus, d'autres peut-être pas. D'ailleurs, comme le film que tu as choisi de mettre en avant pour cette année 2025, mon cher Thomas, s'appelle Les Contes de Kokkola. Et c'est signé Juho Kuusmanen. Ça sent le nom finlandais. Alors, j'espère que je le prononce bien.
Oui, Juho Kuusmanen, qui est connu pour s'être fait remarquer en 2021 pour son long métrage intitulé Compartiment numéro 6, qui était notamment utilisé une musique, la chanson de Desireless, Voyage, Voyage. Son quatrième film pour le grand écran, Les Contes de Kokkola, une trilogie finlandaise, se compose, lui, de 3 courts-métrages tournés dans sa ville natale, Kokkola. Les 3 films sont tournés en pellicule avec une caméra Bolex. Format 4 tiers noir et blanc, cadre vignetté avec rayures, taches et son poste synchronisé. Dans cette trilogie, il aborde des thèmes déjà présents dans Compartiment numéro 6, comme la solitude, l'exclusion, la marginalité, dans une forme à la fois drôle et mélancolique, comme le premier film de cette trilogie qui raconte l'histoire de Romu Matila, vieil homme vivant avec son chien qui, après avoir perdu sa maison, décide de vendre le reste de ses biens et de déménager en Suède. Il s'inspire librement de l'histoire de Seppo Matila, qui est l'acteur qui incarne Romu Matila et qui s'est longtemps battu avec la municipalité de Kokkola pour conserver son logement jugé inhabitable. L'attention suscitée par le film aura influencé la décision finale de la ville, vu que Seppo Matila ayant finalement été autorisé à rester chez lui jusqu'à la fin de sa vie. Ce premier segment fait beaucoup plus dans la mélancolie, tout en distillant un discours social, sans toutefois tomber dans le manichéisme, en proposant quand même un petit peu de foi en l'humanité et un peu d'humour qui se manifeste dans la mise en scène, notamment la mise en scène sonore. Parce que les trois films sont muets, avec des panneaux pour les dialogues, mais ils bénéficient d'une bande-son au bruitage volontairement exagéré. Le deuxième segment est un hommage au premier film de fiction finlandais réalisé en 1907, The Moonshiners, malheureusement disparu depuis longtemps. Cette fois, il s'agit d'un frère et d'une sœur qui héritent d'un commerce illégal de bouilleurs de crue. Déjà, le postulat est décalé et la réalisation s'accorde dans un mode plus burlesque. Le dernier film s'aventure plus, quant à lui, sur les terres d'un Georges Méliès, celui du voyage dans la Lune, avec l'histoire d'une gardienne de phare et de son petit frère qui voit le monde changer et donc leur travail est remis en question. La science-fiction fait une incursion à base d'effets bricolés, on voit les maquettes, et c'est ce qui fait toute la poésie du film, avec toujours cet aspect mélancolique et de l'humour, et surtout un véritable amour pour les laissés pour compte, ceux qui doivent faire face aux institutions qui appliquent des règles, sans prendre l'humain en compte. D'un film à l'autre, on retrouve les mêmes acteurs, une même complicité et un même amour du cinéma qui permet de faire des choses avec peu de moyens. Les Contes de Kokkola, une trilogie finlandaise, est plutôt passé inaperçu lors de sa sortie en salle, mais il est visible en DVD chez Le Pacte et c'est un film qui est plein de tendresse et d'humour.
Peut-être un peu moins tendre. Et j'ai pas vu non plus beaucoup d'humour. Et le film choisi par notre ami Johan Chanoir. Alors, Johan, tu as choisi, toi, de nous parler d'un film qui est disponible sur Netflix. Un film qui a fait l'événement parce qu'il y a eu projection à la Cinémathèque française avec la venue de sa réalisatrice. Je veux bien sûr parler de House of Dynamite de Catherine Bigelow.
Alors, on aime bien tous hein, ici Catherine Bigelow. Moi, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, depuis son Point Break. Je trouve qu'elle fait des très très bons films qui posent des questions fortes. Hein. On se souvient de Détroit, par exemple, hein, cette mise en image absolument apocalyptique de la répression des émeutes dans cette ville aux États-Unis. Bon, on connaît bien sûr Zero Dark Thirty également. Là, elle change de registre et elle s'inscrit en fait, elle change de paradigme. Parce qu'un de mes amis a écrit un très très bon article sur ce film, Benoît Pelopidal, ce spécialiste des questions nucléaires. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son film fera date, le paradigme au cinéma était d'invisibiliser la menace nucléaire. C'est pas du tout l'ambition de Catherine Bigelow. Au contraire, c'est de montrer en fait qu'il n'y a pas de parapluie nucléaire. Déjà, un parapluie, même au sens métaphorique, ne nous protégerait guère des retombées radioactives. Alors l'histoire, elle est très simple. Hein, c'est les États-Unis. Subissent une attaque d'un missile nucléaire. On ne sait toujours pas vraiment qui l'a tiré, etc. Mais ça, c'est pas très important. La structure narrative est très originale. Elle reprend d'ailleurs une structure très similaire à celle de Ridley Scott dans Le Dernier Duel, hein, un film sur le Moyen-Âge, avec Matt Damon, si je me souviens bien. Et donc, on retrouve en fait cette attaque imminente, hein, parce qu'en fait, il y a une sorte de compte à rebours. On se rapproche de plus en plus du moment de la frappe sur la ville de Chicago, c'est la cible qui a été choisie. Et donc on a trois points de vue différents. Et ça c'est très intéressant parce que ces trois points de vue, c'est la même temporalité, mais c'est trois manières différentes d'aborder en fait une menace nucléaire et puis de voir que les arsenaux développés pour réagir à de telles menaces sont totalement inopérants en dépit des milliards de dollars investis pour protéger le territoire des États-Unis. Donc il y a de la tension. Il y a du suspense. La fin, je laisse le public choisir parce que pour moi, on entend l'explosion nucléaire. Il y a un grand boom à un moment donné. On est en Alaska dans une base antimissile. Donc pour moi, on l'entend. Pour d'autres, en fait, on ne sait pas ce qui se passe, il y a une fin ouverte. Et là, je laisse à chacun le plaisir d'imaginer ou pas ce qu'elle a voulu nous montrer. Il y a un casting absolument formidable. Moi, je retiens bien sûr Idriss Elba en rôle de président des États-Unis. Bon, certainement choisi pour sa persona avec quand il avait interprété Nelson Mandela dans un biopic. Et puis surtout, quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi, c'est Jared Harris, hein, qui joue le rôle d'un haut fonctionnaire, du secrétaire d'État à la Défense. Si je me souviens bien, bon, on le connaît surtout, il a une carrière longue comme le bras. Mais on le connaît bien pour la série Tchernobyl, hein, où il joue le rôle de l'ingénieur soviétique, hein, qui va sauver le monde du cataclysme nucléaire. Donc c'est vraiment un film qu'il faut regarder, qui malheureusement n'est pas sorti en salle, et qui je pense ne sortira pas en salle. Mais c'est un film qu'il faut voir si vous avez la chance d'avoir Netflix, ou qu'on puisse vous permettre de regarder ce film, parce que c'est un très beau film. On n'en sort pas joyeux, ni optimiste sur le genre humain, sur les menaces actuelles, etc. Mais ça permet de remettre en place les idées, parce que contrairement à ce qu'on nous serine depuis des années, il n'y a pas de protection contre une attaque nucléaire. Et puis tout l'argent qui est investi dans cet arsenal, parce qu'à un moment donné, les protagonistes se posent cette question, à quoi sert-il ? Et je pense sincèrement qu'il s'est reverré mieux dans d'autres domaines, comme par exemple l'éducation, les services publics, ce genre de choses. Mais c'est un autre débat. Mais cette question est posée par ce film. Bref, c'est un film, c'est un très bon film, plein de suspense, plein d'action. C'est un film aussi qui fait réfléchir. Bref, c'est ça le cinéma qu'on aime dans cette émission.
Mon cher Damien, toi, t'es pas venu avec de la dynamite, t'es venu avec de la kryptonite. Puis avec Crypto aussi, parce que j'ai rarement vu un Superman où Crypto, le chien, était aussi important. Pour nous causer, ton film de l'année, qui est un film qui fait débat, hein, quand même, hein, chez les cinéphiles et chez les amateurs de Superman, c'est le Superman de James Gunn.
Le film, il fait quasiment 2 heures, mais on voit pas le temps passer. L'autre particularité, c'est que c'est un film qui a beaucoup marché. Il a coûté très cher, il a rapporté le triple de ce qu'il avait coûté, au point que Warner a décidé de repousser tous ses films qui pouvaient fonctionner en salle plus tard, parce que Superman avait rempli les caisses. Ou Sinner, ça fait pareil, donc ils ont fait un doublé assez remarquable. Le film de James Gunn, dès qu'il se lance, assez vite avec un rythme triple. C'est-à-dire qu'on commence en disant qu'il y a 300 ans, les premiers méta-humains sont apparus sur Terre. Il y a 30 ans, une planète a été détruite. Il y a 3 semaines, Superman s'est retrouvé impliqué dans un conflit pour essayer d'aider. Il y a 3 heures, le pays adverse dans lequel il était intervenu pour empêcher une attaque a envoyé son arme pour le contrer. Il y a 3 minutes, il vient de subir sa première défaite. Et en fait, c'est un film qui, à partir de là, va faire un truc très simple, c'est qu'on va prendre Superman au plus bas et on va le voir en fait remonter au fur et à mesure. David Corenset, casté en Superman, il fonctionne à la perfection. C'est peut-être le meilleur Superman que j'ai vu, sans doute à égalité avec Tyler Hoechlin dans Lois et Superman, parce qu'ils ont ce truc de vraiment transmettre une certaine force et empathie qui incarne vraiment ce personnage. C'est-à-dire que dès qu'il arrive, automatiquement, on a une certaine chaleur, on est content littéralement de le voir, comme pour Superman. C'est pas juste des combats, il y a l'une des meilleures scènes du film pour tout le monde, c'est la scène du dialogue dans le salon où on met Superman déjà face à son éthique floue, c'est-à-dire qu'il est Superman, la personne qui l'interviewe c'est Clark, on sait que c'est la même personne, et au niveau de de tout ce qui est éthique au niveau journalistique, c'est un peu problématique. On a la relation floue un peu avec Lois, on sait qu'ils sont proches, qu'elle connaît son identité, on sait pas ce que c'est. On a cette caméra constamment en mouvement qui reflète l'état d'esprit, alors que c'est un dialogue. Il pourrait faire un truc plan-plan dans n'importe quel film assez de base, c'est-à-dire faire champ contre champ. Non, lui, il fait bouger ses personnages, il les fait avancer. Il permet de mettre en avant l'état d'esprit de Superman quand on lui dit « Tu te rends compte que t'es intervenu dans un pays qui a lié des États-Unis, tu mets les États-Unis dans une position compliquée. Pourquoi t'as fait ça ?» Et qu'à force que Lois fasse très bien son travail, c'est-à-dire poser des questions au point de lui mettre au dos au mur, la seule réponse qu'il est capable de sortir, des gens allaient mourir, fallait que j'intervienne. C'est quelque chose qu'on retrouve dans une autre scène où il sauve des gens jusqu'aux animaux, et en fait il commence par sauver des groupes de personnes, des enfants, jusqu'à sauver un écureuil qui montre que Superman, il sauve tout le monde. Il est également bien entouré avec l'un des meilleurs running gags du film, le Justice Gang. Ce qui est incroyable, c'est de se dire que Mister Terrific, c'est quelqu'un que quasiment personne connaissait et que c'est devenu, avec Black Panther, une des références de héros noirs au cinéma juste avec ce film. On a Nathan Fillon qui est incroyablement drôle et insupportable dans Guy Garner. On a des références aussi qui parleront aux personnes qui connaissent les comics et qui permettent de trouver des choses à avance. Par exemple, quand on présente le bras droit de Superman et qu'on l'appelle Ultraman, bah, nous, on sait qui est Ultraman, c'est le méchant Superman de la Terre 3, et on comprend certaines choses qui sont mises en place. Pareil, Crypto qui fonctionne au cinéma, c'était audacieux. Première fois depuis longtemps que je vois une histoire à Crypto où il ne meurt pas à la fin, donc je suis très content. Et Nicolas Hoult en Luthor, incroyable, petit, cruel, mais puissant dans l'idée, influent. Son équipe qui lui mange dans la main alors que bah, ils font tout pour faire une attaque. Je terminerai en disant que l'une des forces du film, c'est aussi son discours politique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Gunn a écrit son histoire avant d'autres conflits qui ont eu lieu, mais qu'il arrive parfaitement à mettre en avant un truc qui est rare dans les Superman, c'est le racisme. Parce qu'on ne peut pas regarder le film durant 20 minutes avant qu'on mette en avant que Superman, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance juste parce que c'est un immigré. Superman de Gunn est incroyable, et je terminerai sur ces mots. Ce que nous dit le film, c'est soyez punk-rock et surtout, levez les yeux.
Ouais, c'est une belle surprise qui est disponible chez Warner, donc en support physique. Mon film préféré de l'année, j'aurais pu vous parler de The Ugly Stepsister, ça a failli, hein, d'Emily Blichfield, qui a été là honorée d'une belle édition ESC avec ses courts-métrages et tout, où du coup tout fait sens. Enfin, c'est une version très fidèle au bouquin en fait de Cendrillon, donc c'est très très trash et c'est très particulier. Mais on en reparlera dans l'émission, mais je voulais vous le signaler parce que là il vient de sortir chez ESC. Moi je vais vous parler d'un autre film qui vient de sortir chez ESC aussi sur support physique et qui est sorti au cinéma cette année, qui m'a mis une méga claque. Il y a eu plein de bons films cette année, hein, dans le cinéma de genre, Évanoui par exemple, Sinners, t'en as parlé, mais ce film là m'a mis une méga claque. C'est Substitution, Bring Her Back. C'est un film d'horreur australien de Michael et Danny Philippou, ceux qui avaient fait La Main en 2023. Et franchement, moi, La Main, j'avais trouvé ça intéressant, parce que très premier degré, tout ça, mais j'étais pas resté scotché par le film. Bon, là, pour moi, là, le film Substitution m'a scotché. C'est réellement mon film de l'année. C'est-à-dire, je parle de ce film, c'est vraiment le film qui m'a le plus impressionné cette année, que j'ai vu dans une salle de cinéma. C'est l'histoire de Andy et sa sœur Piper, qui est malvoyante, et ils sont placés dans une famille d'accueil après la mort brutale et traumatisante de leur père. Laura, ex-assistante sociale, s'occupe déjà d'un autre enfant mystérieux, et elle les recueille. Et à partir de là, c'est le cauchemar. C'est-à-dire que la mort de leur père, c'était une mise en bouche. Hein. Alors, dès le début, et avec des images de rites de sorcellerie de qualité dégueulasse, digne d'un bon vieux caméscope HI8, avec d'ailleurs, pour l'anecdote, des acteurs du film précédent de La Main, en fait, le ton est donné. Dès le début, avec ces images vraiment flippantes, le spectateur est immédiatement malmené, immédiatement installé dans un malaise qui va aller en s'accroissant tout au long du film, tout en s'appuyant sur une mise en scène très élégante, parce que pour moi, c'est là où on voit la différence entre les deux films. Une mise en scène très élégante qui utilise les reflets, qui dévoile des détails par le biais d'utilisation de buées sur les fenêtres, par exemple, et puis qui induit la terreur par petites touches à peine perceptibles. Et en fait, cette femme-là qui les accueille, qui est jouée par Sally Hawkins, alors, hein, Paddington, La Forme de l'eau, voilà. Alors là, on est complètement dans autre chose, qui est une assistante sociale à la base, hein, qui est hantée par le deuil de sa fille qui était aussi malvoyante, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Parce que le film peut être vu comme un film d'horreur, mais aussi, voire teinté de fantastique, voire comme un film complètement premier degré d'une personne qui serait atteinte du syndrome de Munchausen par procuration, parce que c'est un peu ce qu'elle fait, elle. Et c'est souvent des personnes qui travaillent dans le social ou dans le soin, ou, voilà, qui sont atteintes de ce syndrome. Et évidemment, les différentes interprétations, comme tous les grands films, sont possibles. Hein. On peut voir le film de plein de manières différentes. Et elle va peu à peu, cette femme, entraîner les deux adolescents dans un cauchemar qui semble sans fin. En fait, le film ne dure pas si longtemps que ça, mais on a l'impression que c'est un cauchemar sans fin. On est complètement lessivé quand on sort du film. Alors, l'inacceptation du deuil et la mort hantent le film, évidemment, comme dans La Main, hein, qui était quand même bien moins maîtrisé, mais on sentait déjà dans La Main une certaine, si j'ose m'exprimer dans ces termes, une certaine implacabilité. C'est-à-dire que le film avait un côté implacable qu'on retrouve là, à tel point qu'il est difficile en fait de croire que les frangins Philippou c'était auparavant des humoristes. Ça paraît pas concevable, voilà. Parce que dans Substitution, il n'y a pas du tout d'humour. Hein, plus le film avance, plus ce qui était suggéré et montré, plus l'horreur est omniprésente et insoutenable. À tel point qu'après le final, le spectateur reste habité par ce qu'il vient de voir. Pour moi, le film ressuscite le meilleur de Cronenberg, époque La Mouche, où il y a le mélodrame tragique, le body horror sanguinolent et le film de terreur pure se mélanger. Alors, substitution, Bring Her Back est sans doute pour moi le film d'horreur le plus impressionnant vu depuis Martyr de Pascal Laugier en 2008. Et c'est pour moi une date dans l'histoire du genre. Et c'est pour moi, je le dis comme je le pense réellement, le plus grand film d'horreur, hein, je parle d'horreur, vraiment pur film de genre, hein, des années 2020. Je n'ai pas vu quelque chose qui dépassait en intensité ce film. Donc, j'en ai fait mon film préféré de 2025. On avait prévu de terminer par des coups de cœur, mais là, on est ric-rac dans les timings. J'en reparlerai dans l'émission. Moi, je voulais juste vous dire que j'avais prévu de vous parler de Sortie Carlotta, qui sont le coffret Lady Yakuza, la saga intégrale en 8 films, et le coffret Takashi Ishii, qui présente les aventures de l'héroïne Nami. Mais on en reparlera dans l'émission. Les copains, si vous avez envie, très vite, en quelques secondes, juste de dire le petit coup de cœur de votre petit coup de cœur de cette année. Je vais commencer par Thomas.
Moi, c'est la nouvelle collection vouée au fantastique de Fleuve Édition, anciennement Fleuve Noir, qui a sorti la collection Styx, avec déjà 2 nouveaux titres, Vers ma fin de Sophie White et La mère sera éventuelle de John Honor Jacobs, 2 romans que j'ai dévorés, qui sont excellents.
Toi, mon cher Johan, tu es venu, je crois, avec un petit Yves Boisset sous le bras qui sort en 4K là, chez Tamasa.
Tout à fait. Là, c'est la réédition. Enfin, c'est l'édition, parce qu'elle n'a jamais sorti, hein, du Prix du Danger, un film de 83 qui annonce beaucoup de choses sur le paysage médiatique, avec un extraordinaire Gérard Lanvin qui a malheureusement après un peu vrillé. Il faut revoir ce film à tout prix.
Et toi, mon cher Damien, je crois que tu voulais nous parler d'une petite série.
Oui, je voulais parler de la série The Pitt de R. Scott Jamil, présent sur HBO Max. Alors, c'est une série médicale, mais c'est une série médicale post-Covid. C'est-à-dire que tous les médecins ont subi toute la pression du Covid et se retrouvent à travailler avec des actionnaires qui leur demandent de continuer à faire plus en faisant moins. Or, on est dans les urgences et ça conduit souvent à la mort des patients.
Eh bien, les amis, je vous remercie pour cette émission qui est la dernière de l'année. Donc, voilà. Et je vous propose qu'on se retrouve en 2026 pour de nouvelles aventures.
Sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Oh Lord, yeah.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Johan Chanoir, dit Le Chat Errant, Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Sometimes, hey, they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got. Don't let the handshake and the smile.
truth. Smiling faces, tell